Les allumeurs de réverbère vous présentent l'instant qui compte.
Ready for you guys to take one moment look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbère.
Embarka Bent El Kass, conte algérien issu des contes nomades sur les chemins des peuples nomades du monde entier, conte choisi et adapté par Catherine Gendrin, édition Rue du Monde, 2011. Ce jour-là, dans la grande tribu arabe des Beni Hilal, naît la petite Embarka. Le même jour, 7 chamelles donnent naissance à 7 chamelons mâles, tous blancs comme le sont les nuages. « Voilà le signe que ma fille aura une nombreuse descendance mâle !» s'écrie aussitôt son père, le Kass, autrement dit le chef de la tribu. « Qu'elle en soit bénie !» Moi qui attendais un garçon, cela chasse ma déception et respecte la tradition. Ma fille sera honorée. J'exige que l'on fête sa naissance pendant 7 jours et 7 nuits, et vous l'appellerez Embarka Bent El Kass, ce qui signifie Embarka, la fille du chef, afin que nul n'ignore son haut rang. Pourquoi a-t-il parlé ainsi, ce rude chef du désert qui, selon la tradition, ne fête que les naissances de garçons? Sans doute le lien qui allait unir ces deux-là était-il déjà très fort. Bien vite, Embarka montre un caractère tout à fait exceptionnel. Volontaire et curieuse, elle refuse de rester confinée dans l'univers des femmes, et elle fait tout pour que son père ne sache plus se passer d'elle. Il accepte de l'emmener dans ses longues chevauchées à travers le désert qu'il aime tant et qui lui rappelle l'époque où sa tribu était encore nomade. Plus tard, Embarka demande à son père de lui apprendre à monter à cheval, et même de lui enseigner le maniement des armes et les stratégies de la chasse. Au début, on a ri de cet attachement du Kass pour sa fille, mais plus Embarka grandit, plus le lien avec son père se resserre. Celui-ci la considère même comme sa plus fidèle conseillère. Des murmures commencent alors à s'élever. « Notre Kass est envoûté par sa fille !» D'ailleurs, regardez son étrange chevelure rousse, aussi indomptable qu'elle. C'est une diablesse. Même la mère d'Embarka se désole. Quel homme acceptera d'avoir pour épouse une guerrière, une chasseresse, une cavalière qui connaît mieux le désert que l'intérieur de sa maison? Mais le Kass veut faire taire ses calomnies. À son cercle de conseillers, il déclare « Ma fille est courageuse et très intelligente. Je me plais plus en sa compagnie qu'en celle de bien d'entre vous, messieurs. Quant à son mariage, elle y pensera quand le moment sera venu. Reconnaissez donc plutôt comme elle sait débrouiller une affaire, comme elle sait apaiser les querelles avec nos voisins, comme elle sait leur vendre notre bétail. Nous lui devons notre prospérité et le fait de vivre en paix, car j'écoute ses conseils. » Et bientôt, par-delà les dunes, nombreux sont ceux qui louent la sagesse et la perspicacité d'Embarka Bent El Kass. Mieux encore, le Kass donne à sa fille tant aimée, le jour de ses 20 ans, la gouvernance de son Ksar, le plus stratégique, une ville fortifiée que les Beni Hilal ont peu à peu érigée aux portes du désert. C'est une place très convoitée, et très vite, on sait qu'elle est dirigée par une femme. Ce qui bien sûr déclenche bien des interrogations aux alentours, voire à l'intérieur de la ville elle-même. Un jour, un sultan berbère de la région voisine, riche et puissant, demande la jeune femme en mariage. Il est ébloui par sa beauté, et il est surtout intéressé par la possession de cette ville si bien placée. Mais Embarka Bent El Kass n'est pas dupe et refuse ses avances. Le sultan patiente un peu. Puis, comprenant qu'Embarka ne cédera pas, finit par se mettre en colère. « Une femme croit pouvoir m'imposer sa loi? Une femme m'empêcherait de posséder cette ville? Nous verrons combien de temps elle résistera !» Et il envoie une troupe de guerriers assiéger la ville. Embarka, qui depuis longtemps avait vu venir le danger, a fait emmagasiner beaucoup de nourriture et d'eau. Du haut des murailles, ces guerriers repoussent sans difficulté les ennemis qui régulièrement tentent de pénétrer dans l'enceinte. Mais le sultan ne s'inquiète pas. Il est sûr que le temps travaille pour lui. Ses troupes restent là, empêchant toute sortie des habitants et donc tout ravitaillement. Au bout de 3 longs mois, Mbarka Bent El Kass commence à s'inquiéter de la diminution lente mais inexorable des provisions. Elle sait aussi que les assiégeants se lassent de ce siège et qu'eux commencent également à manquer de tout, mais pas assez cependant pour partir. Alors Mbarka rassemble ce qu'il reste de nourriture et de fourrage. Elle choisit une chèvre et la nourrit chaque jour avec abondance. Dans les ruelles du Ksar, on murmure qu'Mbarka garde pour elle les meilleures viandes. La chèvre effectivement grossit, tandis que les quelques bêtes qui restent dans la ville sont de plus en plus maigres et meurent une à une. Une nuit, discrètement, Mbarka fait sortir la chèvre de l'enceinte. Les ennemis voient cette bête bien grasse courir devant eux. « Chef, regardez! Les habitants ont encore de quoi engraisser leur bétail. Ils ne sont pas prêts de mourir de faim, alors que nous, nous ne mangeons plus de viande depuis plusieurs semaines !» Le chef est interloqué. Cependant, le sultan ne lui a pas donné l'ordre de se retirer. Le siège doit se poursuivre. « Ils ont encore de la viande, mais ça m'étonnerait qu'ils aient encore beaucoup de grains, » répond le chef d'un air méprisant qui cache son étonnement. Mais Mbarka a prévu la pensée du chef ennemi. Le lendemain, elle rassemble tout ce qu'il reste de semoule et fait installer sur la muraille de grandes jarres remplies à ras-bord de cette belle céréale dorée. « Chef, regardez, ils nous narguent avec leur blé, ils ont encore de quoi cuire des centaines et des centaines de galettes, alors que les nôtres sont de plus en plus fines. » Les jarres disparaissent bien vite du haut des murailles, avant que le vent ne se lève, car sous la mince couche des quelques grains de semoule qui restent de la ville se cachent juste des monticules de sable. « Qu'ils nous narguent !» s'énerve le chef ennemi. « S'ils ont à manger, qu'importe, c'est la soif qui les vaincra !» Mais là encore, la fille du Kass a tout prévu. Le lendemain, tous les habitants du Ksar reçoivent l'ordre d'apporter leurs maigres réserves d'eau. Beaucoup le font à contre-cœur, en maugréant. L'eau est plus précieuse que la nourriture. Mbarka veut-elle se l'approprier pour elle toute seule? Mais les guerriers de la jeune femme sont là, qui font oublier l'idée de désobéir. L'eau est rassemblée dans un grand bassin, et chacun reçoit une gourde pleine. « Que cela vous suffise pour 3 jours, » déclare Mbarka. « Aucune goutte supplémentaire ne vous sera accordée. Et vous, les femmes, « allez me chercher votre linge sale. Apportez vos gandouras, vos jupes et vos foulards. » En disant cela, Mbarka a le regard dur. Elle sait qu'elle est en train de jouer la vie de ceux que son père lui a confiés. Si sa ruse échoue, ils devront capituler et ouvrir les portes de la ville. Elle sait aussi que les ennemis exaspérés par cette longue résistance ne leur feront pas de cadeaux. Les enfants et les vieillards seront massacrés, les plus jeunes vendus comme esclaves. Elle-même sera conduite chez le sultan qui, humilié d'avoir été défié par une femme, lui fera subir les pires outrages. Mais elle sait surtout qu'elle ne doit rien montrer de ses angoisses. Les femmes reviennent, la tête basse, les bras chargés. Mbarka empoigne le linge sale et poussiéreux de la première et devant tout le monde, le trempe dans la dernière eau potable de la ville. Un hurlement de rage s'élève de la foule. Aussitôt, les gardes lèvent leur épée pour protéger la fille du Kass. « Je veux !» hurle Mbarka. « Que toutes vous laviez votre linge dans cette eau, que celles qui s'y refusent soient immédiatement fouettées. Quant à vous, les hommes, jouez de la musique, frappez sur vos tambours, comme si nous préparions une grande fête !» Il y a dans sa voix tant de conviction, mais aussi tant de désespoir, tant d'autorité et pourtant tant d'amour pour son peuple, que chacun obéit. Sur les plus hautes terrasses qui dominent la muraille, Mbarka fait tirer de longs fils, et chaque femme vient y étendre son linge lavé. En contrebas, englués dans leur ennui, le ventre ravagé par la faim, les ennemis, un à un, lèvent les yeux. La ville assiégée est recouverte de tissus mouillés qui se balancent joyeusement dans le vent. Les taches blanches ou multicolores sont comme des drapeaux insolents qui se moquent des guerriers épuisés, supportant depuis des mois l'inconfort de leur campement dans le sable. « Chef, regardez, il manque tellement d'eau qu'ils en ont encore assez à gaspiller pour laver leur linge. Écoutez, chef, écoutez, on entend leur musique, ils préparent une fête. Il ne manque ni d'eau, ni de grains, ni de viande, alors que nous nous traînons, sales et affamés. Ces gens sont diaboliques. Ce sont sûrement les génies du désert qui la nuit les ravitaillent. Chef, chef, assez. Ils doivent être en pleine forme, et même si nous arrivions à percer les portes de la ville, nous n'aurons jamais la force de les combattre. Stupéfait, le chef aperçoit ce linge qui le nargue, et la musique de plus en plus forte le rend fou de rage. Il regarde ses guerriers amaigris, à bout de force. Lui-même ne peut plus croire en sa victoire. Quelques heures plus tard, la sentinelle cachée en haut de la muraille voit les ennemis lever le siège. Sur leurs maigres chevaux, ils disparaissent peu à peu dans le désert. Embarka Bent El-Kas sort de son palais, magnifique malgré ses traits tirés. Elle s'adresse au peuple silencieux qui la regarde avec admiration. S'il est encore un seul membre de notre tribu pour ignorer que la puissance de l'intelligence vaut plus que toutes les forces physiques réunies, qu'il s'avance. Personne ne bouge. S'il est encore un homme qui croit ne rien avoir à apprendre des femmes de notre tribu, qu'il fasse un pas dans ma direction. Aucun homme ne s'approche. Alors que la fête se prépare pour ce soir, et dans nos plus belles tenues, aussi propres que nos âmes courageuses et sèches comme le vent de notre cher désert. On raconte que les 7 chamelons blancs, nés le même jour qu'Embarka, ont tous survécu au siège de la ville. Ils sont devenus de fiers dromadaires. Mais on dit aussi que la fille du Kas n'a pas daigné se plier à la prédiction de son père, qui assurait qu'elle aurait de nombreux garçons. Il semble qu'elle ne se soit jamais mariée, mais qu'elle ait eu beaucoup d'amoureux. De l'un d'eux seulement, elle aurait eu un fils, un seul, et cela a suffi à son bonheur.
Allumeurs de réverbères.